Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 24 mai 2023, troisième édition. Ici aux États-Unis, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, se lance aujourd'hui dans la course à la Maison-Blanche. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, menacé de condamnation pour viol, est serein d'après ses avocats. Au Soudan, des affrontements ont éclaté à nouveau à Khartoum, menaçant de faire voler en éclats l'accord de cessez-le-feu. Le Sahel compte plus de 3 millions de déplacés internes, des déplacements susceptibles de provoquer de nouveaux conflits.
La criminalité transfrontalière, l'immixion de certaines localités par les groupes radicaux violents, l'insuffisance en termes de délivrance des services sociaux de base sont entre autres des facteurs mis en connexion pour expliquer ces déplacements massifs des populations.
Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques du Sahel. Il nous en dira plus dans la partie magazine. Le chef de l'ONU exhorte le monde à empêcher une famine dans la Corne de l'Afrique. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. On commence donc avec cette triste nouvelle, le décès de la chanteuse Tina Turner à l'âge de 83 ans, l'icône de la musique. Tina Turner, souvent qualifiée de reine du rock and roll, est décédée des suites d'une longue maladie à l'âge de 83 ans à son domicile suisse situé près de Zurich, a annoncé aujourd'hui l'un de ses représentants. Victorieuse dans les années 1980 de 8 Grammy Awards, les récompenses annuelles de l'industrie musicale américaine, Tina Turner avait vu nombre de ses titres trustés le top 40, dont What's Love, Got to Do With It, que vous écoutez en ce moment même. On l'écoute juste un instant avant la suite du journal. Voilà, adieu l'artiste. Ici aux États-Unis, le républicain Ron DeSantis va se lancer ce soir dans la course à la Maison-Blanche. Ce sera lors d'un échange sur Twitter avec Elon Musk, le patron du réseau social Mouhamadou Mfa.
La conversation entre le gouverneur de Floride et le patron de Twitter est prévue à 18h, heure de Washington, 22h GMT, et sera modérée par l'homme d'affaires républicain David Sachs. Le choix de ce format pour un lancement de campagne est toutefois atypique. C'est la première fois que l'on va vivre quelque chose comme cela sur un réseau social, s'est félicité Elon Musk, promettant des questions-réponses en temps réel et non préparées à l'avance. Cet échange ne doit pas pour autant être perçu comme un parrainage, a plaidé Elon Musk, qui est toujours politiquement ambigu. Ron DeSantis, 44 ans, est perçu comme un rival potentiel à Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine. Les autres candidats déclarés, Nikki Haley, Tim Scott et Sarah Hutchinson, dépassent rarement les 5% d'intention de vote. Le vainqueur de ces primaires va affronter en novembre 2024 le candidat choisi par le Parti démocrate, qui sera probablement Joe Biden.
Le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford, a fait escale aujourd'hui à Oslo, en Norvège. Une première pour un navire de cette envergure et une démonstration de force de la part de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord face à la Russie. Le navire et son équipage mèneront des exercices avec les forces armées norvégiennes le long de la côte du pays dans les prochains jours, a indiqué l'armée norvégienne. L'ambassade de Russie à Oslo a condamné l'escale du porte-avions. La présidente grecque Katerina Tsakalopoulou a nommé aujourd'hui comme premier ministre par intérim le président de la Cour des comptes, Ioannis Sarmas, afin de préparer de nouvelles élections législatives qui sont prévues le 25 juin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, au Sénégal, le procureur Abdou Karim a requis 10 ans de prison pour l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol, ou au minimum à 5 ans de prison pour corruption de la jeunesse et à 1 an de prison pour des menaces de mort qu'il aurait proférées contre la plaignante Adissa. Plus d'infos avec Nani Talani.
La chambre criminelle a mis sa décision en délibéré au 1er juin. Les viols ne font pas de doute, selon le procureur Abdou Karim Diop, dans son réquisitoire contre Ousmane Sonko. La plaignante, Adissa, 23 ans, employée d'un salon de beauté, maintient que M. Sonko a abusé d'elle 5 fois entre 2020 et début 2021 et l'avait menacée de mort. Disant craindre pour sa sécurité et remettant en cause l'impartialité de la justice, M. Sonko a décidé de ne pas comparaître à son procès hier à Dakar. Ses avocats et ceux de sa co-accusée ont d'abord cherché à faire reporter le procès sans obtenir gain de cause, puis ont quitté l'audience. Selon Cyril Clédor Lee, l'un des avocats, Ousmane Sonko est plus que serein après ce procès. Son éligibilité est déjà compromise par une condamnation à 6 mois avec sursis pour diffamation. Ses avocats ont saisi la Cour suprême pour tenter d'obtenir la cassation. M. Sonko crie au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. Le gouvernement dément toute instrumentalisation de la justice, disant que c'est une affaire privée.
Au Soudan, l'acheminement de l'aide humanitaire est toujours impossible. Au 3e jour de la trêve, non respectée entre militaires et paramilitaires, les médiateurs américains et saoudiens continuent leurs efforts de médiation pour mettre en place des couloirs sécurisés. Nathalie Barge.
Les tirs d'artillerie et raids aériens se sont poursuivis ce mercredi à Khartoum, malgré l'entrée en vigueur d'un nouveau cessez-le-feu lundi soir. Les médiateurs américains et saoudiens disent avoir présenté aux émissaires des belligérants des informations montrant qu'ils ont violé la trêve. Riyad et Washington assurent toutefois que des préparatifs pour des mouvements d'aide humanitaire sont en cours. Le cessez-le-feu conclu en Arabie Saoudite est censé créer des passages pour les civils et l'aide humanitaire, dont plus de 25 millions de personnes ont besoin selon l'ONU. Les humanitaires ne peuvent toujours pas accéder aux hôpitaux de Khartoum et du Darfour. Ceux qui n'ont pas été bombardés n'ont plus de stock ou sont occupés par des combattants. Un hangar de MSF dans la capitale a été pillé. L'ONG médicale a fait venir des équipes d'urgence mais dit peiner à obtenir des permis de déplacement ou des nouveaux visas. Des milliers de familles continuent à fuir le Darfour vers le Tchad ou prennent la route du nord vers l'Égypte. Selon l'ONU, 300 000 personnes ont quitté le pays et plus de 800 000 autres se sont réfugiés dans d'autres villes soudanaises. Les camps de déplacés qui accueillaient déjà 3,4 millions de personnes avant la guerre sont saturés ou ont été détruits par les combats.
La guerre pour le pouvoir entre militaires et paramilitaires a fait plus d'un million de déplacés à l'intérieur du Soudan depuis le 15 avril, a annoncé aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations. En outre, 319 000 autres personnes ont fui vers les pays voisins, l'Égypte en tête avec 132 000 arrivées, suivie du Tchad avec 80 000 arrivées, précise l'agence de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté aujourd'hui le monde à empêcher que des gens meurent de faim comme dans la Corne de l'Afrique, frappée par une sécheresse record. En ouverture à New York d'une conférence de donateurs, M. Guterres a appelé à financer de manière urgente les programmes humanitaires. Rosine Monezero.
À ce jour, seulement près de 20% du fonds sont financés et c'est inacceptable, a déclaré Antonio Guterres. Il prévient que sans une injection majeure et immédiate d'argent, les opérations d'urgence risquent de s'arrêter et des gens vont mourir. Selon l'OMS et l'UNICEF, l'année dernière, la sécheresse en Somalie a emporté 40 000 vies, dont la moitié étaient des enfants de moins de 5 ans. 5 saisons de pluie déficitaires d'affilée ont tué des millions de têtes de bétail et détruit les récoltes. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 23 millions de personnes sont en proie à une grave malnutrition dans les 3 principaux pays de la région, Somalie, Kenya et Éthiopie. D'après l'OHCR, depuis le début de l'année, plus d'un million de personnes ont été déplacées par les conflits armés, les inondations ou la sécheresse, aggravant les risques de famine. Monsieur Guterres a souligné que les populations de la Corne de l'Afrique payent un prix insensé pour un changement climatique qu'elles n'ont pas provoqué. Il appelle à agir maintenant pour empêcher qu'une crise ne se transforme en catastrophe.
La République démocratique du Congo veut relever à 70% contre 32 actuellement sa participation dans la co-entreprise minière sino-congolaise, Sicomine, estimant que l'accord actuel est trop déséquilibré au détriment de Kinshasa. Cet accord déplore Kinshasa ne donne guère à la RDC les moyens de contrôler les activités de la Sicomine et les ressources et recettes qui sortent du pays. Le président Félix Tshisekedi, attendu aujourd'hui en Chine, et ce jusqu'au 29 mai, a ordonné en mars dernier la création d'une commission ad hoc afin d'harmoniser les positions des institutions congolaises chargées de superviser la mise en œuvre du contrat. La justice tunisienne a décidé aujourd'hui de remettre en liberté le patron de Mosaïque FM, la radio la plus écoutée de Tunisie, après environ 4 mois de détention pour notamment complot contre la sûreté de l'État. Noureddine Bouta doit toutefois s'acquitter du paiement d'une caution d'1 million de dinars, environ 300 000 euros. Monsieur Bouta avait été interpellé le 13 février dans le cadre d'une vague d'arrestations d'opposants et d'autres personnalités de premier plan soupçonnées de comploter contre l'État tunisien et que le président Kais Saied avait qualifié de terroriste. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
L'économie du Nigeria a ralenti à 2,3% au premier trimestre à cause d'un plan du gouvernement visant à échanger les anciens billets contre de nouveaux modèles. Cela a provoqué la pénurie de liquidités et perturbé le commerce et les paiements, a déclaré le Bureau national des statistiques. Le pétrole, qui représente environ les 2/3 des recettes publiques et 90% des réserves de change, s'est contracté de 4,2%. Grâce à la garantie partielle de crédit de 345 millions de dollars que la BAD vient d'approuver, l'Égypte pourra lever 500 millions de dollars sur le marché des obligations Panda vendues par des émetteurs étrangers en Chine. Ces fonds seront utilisés pour les secteurs classés prioritaires comme les transports propres, les énergies renouvelables, la gestion durable de l'eau et des eaux usées, le financement des micro, petites et moyennes entreprises et les initiatives en matière de services de santé essentiels. Pour terminer, la croissance économique de l'Afrique devrait s'accélérer à 4% en 2023 et 4,3% en 2024, après une expansion de 3,8% l'année dernière. C'est ce qu'indique ce mercredi la Banque africaine de développement dans ses perspectives économiques en Afrique.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Racisme en Espagne, pas de suspension pour Vinicius, tribune fermée à Valence.
Vinicius, qui avait écopé d'un carton rouge lors de Real Madrid-Valence dimanche après avoir été victime d'insultes racistes pendant la rencontre, n'aura pas de match de suspension. Le Brésilien est donc autorisé à rejouer dès ce mercredi contre le Rayo Vallecano au Bernabéu pour la 36e journée de Liga, une décision sans précédent en Espagne. Cependant, une tribune du stade de Valence sera en revanche fermée pour 5 matchs, a annoncé la Fédération espagnole mardi soir. La commission de discipline a aussi décidé d'imposer au Valence une sanction économique de 45 000 euros.
Eric, le joyau du foot brésilien est devenu le symbole de l'antiracisme.
Il est devenu malgré lui une figure de la lutte contre le racisme, un fléau qui gangrène les stades espagnols. Noir et imposant, a réagi Vinicius dans la nuit de lundi à mardi, voyant que la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro avait été éteinte en guise de soutien. « Mais je souhaite avant tout apporter plus de lumière à notre combat », a-t-il ajouté.
NBA King James va-t-il prendre sa retraite ?
Fatigue physique, usure mentale, frustration alimentée par l'émotion, pression mise sur les Lakers pour mieux l'entourer, LeBron James laisse planer le mystère sur son avenir de basketteur et déferler les spéculations sur une éventuelle retraite à 38 ans. Ses propos sibyllins, prononcés lundi soir après l'élimination en finale de Conférence Ouest par Denver 4-0, ont suscité l'émoi en conférence de presse avant que la stupeur et les tremblements ne s'emparent de la planète NBA quand ESPN a rapporté que LBJ réfléchissait en effet à arrêter de jouer. Il lui reste 2 années de contrat avec les Lakers, dont la dernière est en option. Or, il a toujours clamé un rêve, celui de jouer avec ou contre son fils aîné, Bronny, qui va entamer sa première saison universitaire à Los Angeles et aura l'âge réglementaire pour être éventuellement drafté en NBA pour la campagne 2024-2025.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La région du Sahel compte plus de 3 millions de déplacés internes, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un nombre qui est appelé à augmenter, avertit le HCR, en raison de la récurrence des attaques terroristes. Ces déplacements pourraient faire basculer le Sahel vers de nouveaux conflits. Mohamedou Mfa a joint le docteur Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
C'est vrai que quand on regarde un peu les causes structurelles de ces différents conflits, qu'ils soient liés au terrorisme ou aux conflits locaux, on se rend compte que très souvent, les impacts négatifs des changements climatiques ont considérablement déstructuré le corps social. C'est de cette déstructuration que les groupes radicaux violents se sont investis ou se sont invités dans des endroits dans les Sahel. Donc, ensemble, ce sont des populations déjà fragiles par les impacts négatifs des changements climatiques qui se sont vus face à des conflits violents qui sont le terrorisme, les conflits locaux et même des conflits liés parfois aux groupes d'autodéfense.
Oui, il y a donc des déplacements des populations qui partent de leur localité vers d'autres et parfois même de certains pays vers d'autres. On parle de conflits fonciers, de tensions entre éleveurs et agriculteurs, de l'aggravation de la pauvreté qu'entraînent tous ces déplacements. Qu'en pensez-vous?
Clairement, ce sont des facteurs. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul facteur qui pourrait expliquer la situation délétère dans laquelle se trouvent les populations déplacées ou les réfugiés, mais la connexion entre les facteurs, les impacts négatifs du changement climatique, la criminalité transfrontalière, l'immigration de certaines localités par les groupes radicaux violents, l'insuffisance en termes de délivrance des services sociaux de base sont entre autres des facteurs mis en connexion pourrait expliquer ces déplacements massifs des populations des campagnes vers les centres urbains ou parfois ces des déplacements qui vont même au-delà des frontières. Donc pour dire qu'attention, vouloir à tout bout de champ s'accrocher sur un seul facteur, on risque de s'inscrire dans une analyse biaisée, voire très raccourcie.
Notre correspondant au Burkina Faso a réalisé un reportage qui montre que de nombreux déplacés trouvent refuge dans les familles, ce qui accentue les problèmes financiers et de survie des dites familles. Faut-il s'en inquiéter?
Et clairement, parce que une fois que les populations déplacées, si elles sont à l'intérieur de leur propre pays, ou les réfugiés, si ces populations sont au-delà des frontières, naturellement, ça provoque une concentration autour des ressources rares, que ce soit l'accès à l'alimentation, que ce soit l'accès à l'eau, même l'accès au logement. Très souvent, les populations hautes ont la ferme conviction qu'avec les réfugiés, avec les personnes déplacées, que la criminalité augmente. Donc pour dire que lorsque ces déplacements venaient à se prolonger dans la durée, naturellement, il n'y a rien d'étonnant de s'attendre à de nouvelles conflictualités dont le Sahel pourrait connaître dans les années à venir.
Docteur Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'Afrique des diasporas et des afrodescendants a ses yeux tournés vers Lomé. La capitale togolaise va accueillir le 9e congrès panafricain en 2024. Ce rendez-vous africain va retracer le débat sur l'héritage du mouvement panafricain afin de lui redonner un nouvel élan. Les travaux préparatifs de ce 9e congrès ont eu lieu en début de semaine à Lomé où nous retrouvons notre correspondante Amène Assignon.
L'ambition du panafricanisme à mobiliser les ressources, fédérer les énergies et se réinventer pour agir. Un thème évocateur autour duquel vont s'inscrire les activités du 9e congrès panafricain. Une rencontre que le Togo et l'Union africaine organisent de concert. Elle s'inscrit donc dans le cadre de l'agenda de la décennie 2021-2031 des racines africaines et de la diaspora africaine de l'Union africaine. Le congrès de Lomé sera l'occasion privilégiée pour les Africains vivant sur le continent, la diaspora et les afro-descendants de se retrouver, d'échanger et de se remobiliser pour mener le combat du panafricanisme.
Le congrès panafricain est l'occasion de redonner à l'Afrique cette pensée très profonde et cette présence-là, déracialisée, qui travaille pour la paix, mais qui a une mémoire, qui n'oublie pas son passé, et qui sait la violence dont elle a été victime. Mais cette violence doit lui servir également de leçon.
Pour les acteurs engagés dans cette nouvelle dynamique insufflée par le Togo, il s'agira de revoir les paradigmes afin de donner une impulsion nouvelle au mouvement panafricaniste. Unir les forces pour avancer et accélérer la marche de l'Afrique vers le progrès.
Pour qu'on puisse faire le congrès de Lomé de 2024, il faut qu'on se mette d'accord sur le mode opératoire par rapport à la postérité. Si tout se passe bien, ce que nous souhaitons, cela va être un accélérateur de la consolidation de la conscience panafricaine.
Le congrès sera aussi l'occasion pour les Africains de s'interroger sur leur devenir dans un monde de plus en plus instable et en panne de responsabilité collective, impliquant donc le continent africain. Amel Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
En Côte d'Ivoire, des campagnes de sensibilisation sont menées par la Société mathématique et des ONG en collaboration avec la direction de la vie scolaire pour encourager les jeunes filles des lycées et collèges à aimer les sciences et les technologies. Le reportage de Delphine Boïs, notre correspondante à Abidjan.
Présidente de l'ONG KS Africa, Ella Marina Conan, professeure à la faculté de mathématiques et d'informatique à l'université de Cocody, veut inspirer le changement à travers la caravane plus de femmes dans les matières scientifiques.
Par cette caravane, nous venons déjà déconstruire la première idée que les enfants ont, que être femme et faire les sciences, c'est pas possible. Et nous venons donc avec des modèles de femmes qui sont soit de la science, de la technologie, de l'ingénierie, qui viennent partager leur expérience.
Fatime Cissé, première femme diplômée en intelligence artificielle de Côte d'Ivoire, responsable de l'ONG HIS, qualifie les matières STEAM, entendez sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, des métiers d'avenir. Des femmes de science ont franchi le pas, partagent leurs expériences et sensibilisent les jeunes filles. Professeur Fatou Traoré, docteur en mathématiques appliquées à l'université de Cocody.
Au collège, j'ai constaté qu'on n'avait pas de prof de maths femmes. Et déjà, ça a attiré mon attention. Comme j'arrivais à faire mes exercices, même avoir de fortes notes par rapport aux garçons qui étaient dans la classe, je me suis dit que je pouvais avoir un grand diplôme en mathématiques. J'ai continué à arriver à l'université, c'était la même chose. Il n'y avait pas de prof de maths femme, sauf en maîtrise. Quand je suis arrivée, j'ai eu le professeur Guidi Mwanja. Je me suis dit, si je pouvais avoir le doctorat aussi, pour être aussi un prof de maths à l'université comme elle. Par la grâce de Dieu, j'ai pu soutenir, j'ai eu mon doctorat en mathématiques. Concernant les jeunes filles, je pense qu'elles ne doivent pas avoir peur des sciences. Elles doivent être beaucoup courageuses, se dire qu'elles peuvent réussir comme ces hommes dans ces différentes filières.
Femme des sciences, professeure Joséphine Guidi Mwanja, première femme africaine agrégée de mathématiques et docteur d'état en sciences mathématiques. Les impressions des jeunes filles sensibilisées.
Traoré Assata, avec cette cérémonie, je vais essayer de faire plus d'efforts. Le Kosoué Amnongras, je vais faire appliquer tous les conseils donnés pour pouvoir obtenir mon bac avec une mention.
La Société mathématique de Côte d'Ivoire a initié le concours Miss Mathématiques. Ange Roxane Miessan, 15 ans, en classe de terminale C au lycée des Excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam a remporté le titre de Miss Mathématiques 2022.
C'était un défi pour moi de pouvoir comprendre une matière qui est redoutée de tous. Cela m'a beaucoup motivée.
Le professeur Ibrahim Akone de la commission communication de la Société mathématique de Côte d'Ivoire.
La femme donne l'enseignement déjà dans la maison. Donc si elle arrive à acquérir les notions scientifiques, elle peut transmettre facilement à plus de monde que les hommes.
Ces exemples de femmes diplômées de mathématiques et de sciences serviront d'inspiration et de motivation aux jeunes filles qui pourront dire « Yes, we can ». Delphine Bouiz, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, plusieurs jeunes artistes de Goma se sont engagés dans l'art thérapeutique en faveur des déplacés de guerre, vivant dans les différents camps pour redonner le sourire à ces personnes dont la vie a été rendue difficile par la guerre. Reportage depuis Goma de Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région.
Les chansons interprétées par les artistes et accompagnées par les déplacés du camp Don Bosco d'Engangi ont permis à Madame Léontine Daguigé, une vieille dame vivant avec ses 8 enfants dans une seule case, d'oublier un peu sa vie des misères.
En tout cas, nous sommes très heureux d'accueillir ces jeunes dans notre camp. Avant leur arrivée, nous passions des journées entières à nous replier sur nous-mêmes et à penser à notre misère. Mais depuis qu'ils sont réguliers, nous nous sentons soulagés. Nous faisons avec eux de petits exercices de relaxation musculaire qui font circuler les sangs dans nos veines et améliorent notre respiration. Et quand ils nous font rire, nous oublions toutes les souffrances que nous endurons.
Il a fallu beaucoup de temps à ces artistes pour pouvoir jouer avec les personnes âgées, surtout les femmes, explique Boniface Nzanzu, un comédien qui se réjouit de leur rapport à la vie des personnes déplacées du camp de Don Bosco.
On n'arrivait pas à travailler avec les femmes plus âgées parce qu'elles avaient trop de réserves et ne voulaient pas bouger, mais avec un temps, quand on a commencé des exercices, on les a trouvés trop ouverts et on a compris qu'il leur manquait quelque chose pour leur divertir, pour leur permettre d'exprimer leurs sensations et c'était l'art. On a trouvé que c'était trop bénéfique et aujourd'hui, on est sûr qu'on a créé beaucoup des hommes et des femmes qui vont réparer les âmes de leurs proches dans ces camps des déplacés.
Réparer les âmes meurtries et traumatisées, c'est l'objectif de ces jeunes artistes qui travaillent dans un projet d'inclusion et de réinsertion sociale par les arts. Dénommé les hommes qui réparent les âmes, une initiative qui doit impérativement être appuyée par le gouvernement congolais et ses partenaires des organisations humanitaires, estime Valentin Bahati, un psychologue congolais.
Souvent quand on est exposé aux violences, c'est comme si on était exposé au virus. Mais seulement ici chez nous, nous ne savons pas que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, que ce soit le volcan, que ce soit les guerres, nous affecte. Les interventions que les jeunes sont en train de mener dans le camp des déplacés, ce sont des actions que nous encourageons et nous souhaitons que toutes les organisations puissent prendre conscience de ces besoins.
Ici en Don Bosco, un groupe de déplacés vient d'être formé dans l'art thérapeutique pour apporter un sourire et la joie au milieu de la souffrance et la misère. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, l'avenir du panafricanisme et des organisations régionales et panafricaines comme l'Union africaine et la CEDEAO. Ce 25 mai, la Journée mondiale de l'Afrique, marquant le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. Une célébration dans un contexte d'hostilité envers des institutions transnationales et une remise en cause de leur rôle dans la résolution des problèmes des pays membres. Quel rôle et quel avenir pour l'Union africaine dans un continent miné par des crises multiformes? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel et en rediffusion samedi et dimanche.